Avant Noël, nous étions arrêtés dans la lettre de Paul à Tite au verset 7. Et on va relire à partir du verset 1 de ce chapitre 3. On ne va pas revoir tout le texte. Mais si vous voulez vous tourner avec moi, c'est page 244 dans la Bible à la Colombe. C'est donc Paul qui s'adresse à Tite, qu'il a envoyé en Crète pour compléter l'équipement des églises, pour établir des églises, des responsables d'églises dans cette île à l'est de la Méditerranée. Et au chapitre 3, il dit à Tite, « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Et maintenant, le passage que nous n'avions pas vu. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions. Sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres nous apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. On avait donc vu dans cette épître que Paul, au premier chapitre, parler des hommes qui devaient être mis responsables des églises. On avait vu les qualifications d'un côté positif et aussi du côté négatif de ceux qui n'étaient pas dignes de représenter Dieu auprès des hommes dans les églises. Et en fait, il s'agissait de la relation entre nous et Dieu. Il fallait que ces hommes aient une relation digne, une relation selon Dieu, une relation, certaines de vos versions parlent d'une relation pieuse. Pieuse, c'est un mot vieilli aujourd'hui, ça veut simplement dire qui est conforme à la volonté de Dieu et qui plaît à Dieu. Et donc, toujours cet aspect des relations. Relation avec Dieu. Et puis ensuite, au chapitre 2, il avait parlé des relations entre nous, les croyants. Relations au sein de l'Église, relations au sein de la famille, relations, comment elles doivent se passer. Et puis finalement, ici, il nous parle, dans ce chapitre 3, des relations entre nous et eux. Eux étant ceux qui ne sont pas encore chrétiens, eux qui sont encore païens. Et là, il insiste, il nous dit « rappelle-leur ». Et souvent, ce sont des choses qu'on connaît, Mais nous sommes des êtres, des hommes, des femmes, qui avons tendance à oublier. La mémoire est une capacité prodigieuse, mais elle subit des hauts et des bas. En prenant de l'âge, on peut oublier certaines choses, on peut... Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais il suffit qu'au moment où on vous demande d'entrer le code de votre carte, d'habitude, on n'y réfléchit même pas, ça vient tout seul. Et puis, pour une raison ou pour une autre, il peut s'installer un petit doute. Et là, il n'y a que 3 essais. Oula ! Et ça m'est arrivé de bloquer le compte. Et après, il faut... toute une procédure pour relancer ça. Il faut appeler, il faut donner le nom de jeune fille de la grand-mère de son épouse. Et si la Bible nous dit de rappeler, de répéter, c'est parce que Dieu sait que nous avons besoin de cela. Et la façon dont c'est dit, rappelle-leur, c'est continue de leur rappeler. Je disais que souvent on aime trouver des choses nouvelles dans la parole, et c'est bien, Dieu peut nous donner des choses. Si c'est des choses qui n'ont jamais été vues par personne, demandez à Dieu de le confirmer, parlez-en avant de l'annoncer comme une vérité de l'Évangile. Mais il nous rappelle il nous demande de rappeler 3 choses dans les premiers versets. C'est un rappel pour nous remettre dans le bain après 4 semaines. De vivre, d'abord, rappelle-leur les devoirs des chrétiens, nos devoirs. Nous devons avoir des vies remplies d'obéissance aux autorités. Nous devons avoir des vies pleines de bonté. Nous sommes appelés à ne dire du mal de personne, même de François Hollande. Les Français, nous sommes les champions du monde avec les chansonniers, les guignols de l'info, les bébêtes chaudes, de nous moquer, de dire du mal. On fera, j'espère, j'aurai le temps, un petit retour en arrière sur ce problème de dire du mal. Donc de nos devoirs, et aussi rappelle-leur leurs conditions passées. Savoir que ce que nous étions avant de devenir chrétiens. Nous étions perdus dans nos péchés. Et on peut, si on s'en rappelle bien, se présenter autour de nous, dans le monde, dans la société perverse, pleine de ténèbres, de choses horribles, etc. On peut servir de preuve que Dieu peut transformer les hommes par sa grâce, par son salut. Et ces conditions passées, elles ne nous incitent pas à être orgueilleux dans notre façon de vivre. Tout ce qu'on peut faire de bien maintenant, c'est par la grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. On n'a pas le droit de mépriser les païens. Parce que nous étions, nous aussi, des païens. Ces gens qui défilent parce qu'ils veulent avoir le mariage pour tous, nous ne devons pas les mépriser. Ils ne savent pas mieux, ils n'ont pas eu la lumière de l'Évangile. Nous devons les aimer, nous devons leur montrer, leur dire ce qui s'est passé dans nos vies et leur donner soif d'avoir cette certitude, cette vérité, cette vie paisible, cette vie pleine de fruits, cette vie de paix avec Dieu. Et trop souvent, l'Église milite contre les impies, contre les athées, contre les musulmans, contre les terroristes, contre les homosexuels. Ça ne doit pas être notre message. Parce que nous aussi, on vaut pas mieux qu'eux. Si vous le pensez, vous n'avez rien compris. On est sauvé par la grâce de Dieu. On est transformé par son amour. On reçoit et il nous demande de donner. Et donc, si on se rappelle ce qu'on était avant de devenir chrétien, on va avoir de la gratitude pour ce que Dieu a fait. On ne va pas se plaindre parce qu'on a un petit rhume, ou on a une maladie, ou parce qu'on a des circonstances adverses. On va avoir de l'humilité. Ce n'est pas parce que je suis spécial que je vis comme ça, c'est parce que Dieu m'a touché. Et on va avoir cette douceur pleine de gentillesse qui va toucher les gens, qui va faire envie aux autres, qui vivent dans un monde sans rude et sans pitié. Et ça va leur donner l'idée, la foi peut-être, que Dieu peut aussi changer leur vie. Et puis, il demande à Tite de rappeler le salut, le grand salut de Dieu. Il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dieu a fait. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui a initié la relation. C'est lui qui a décidé de venir nous sauver. Nous, dans notre péché, dans notre vieille nature de pécheur, nous nous étions éloignés de lui. Et on pense que cette phrase « Il nous a sauvés » jusqu'à la fin du verset 7, c'était comme peut-être une confession de foi qui était récitée dans les églises. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 8 « Cette parole est certaine. Ce, » Ce mot, textuellement, est digne de foi. On peut le croire, on peut mettre sa vie dessus. On peut vraiment faire confiance à Dieu qu'il va utiliser ses vérités dans nos vies. On peut compter dessus. Et cette expression, cette parole est certaine, on la retrouve 5 fois dans les lettres de Paul à Tite et Timothée. 1 Timothée 1,5, 1,15, pardon. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Paul n'était pas, il n'avait pas la grosse tête en disant je suis le grand apôtre et je suis le premier des pécheurs. Et plus on connaît le Seigneur, plus on comprend son amour et plus on réalise notre péché. Et puis, 1 Timothée 3,1, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de responsable, de surveillant, de pasteur, d'ancien, c'est tous des synonymes, il désire une belle activité. Et il liste donc des caractéristiques qui doivent être présentes dans la vie de ceux qui souhaitent représenter Dieu. 1 Timothée 4,9. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Dieu est un sauveur. Il ne fait pas de distinction. Il veut sauver tous les hommes. Puis dans 2 Timothée 2, verset 11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et puis ce passage, Tite 3,8, cette parole est certaine, ce salut dont nous venons de parler, ces éléments que nous venons de rappeler de début de ce chapitre, c'est certain. Et il veut que Tite l'affirme catégoriquement, avec entière confiance et autorité. Et cela, c'est afin que ceux qui ont cru en Dieu, ou que ceux qui ont cru Dieu, qui ont pris Dieu à sa parole, l'ont reçu et ont cru qu'il va la faire passer dans nos vies, elle va se passer, elle va être accomplie, pour que cela s'applique à exceller dans des œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Est-ce que vous voulez que votre vie soit belle? Est-ce que vous voulez qu'elle soit utile aux hommes? Ou vous préférez juste vivre pour vous-même, vous éclater, faire la fête, et puis on verra bien demain. De toute façon, on meurt, on crève, donc on se la pète, on s'écrase, on va finir par s'écraser. Ou est-ce que vous voulez que votre vie, elle ait un sens, elle ait une direction, elle soit utile, elle soit belle? Il faut qu'on insiste sur les choses qu'on vient de rappeler. Nous sommes sauvés pour faire briller la lumière dans les ténèbres. Et vous avez peut-être remarqué dans le chapitre 3, à trois reprises, au tout début, le premier verset, ce verset 8, et puis verset 14, il y a cette idée d'œuvre bonne, les bonnes œuvres. On a trop tendance, et dans certains milieux, à dire que ce qui compte, c'est la foi en Christ, c'est la foi en Dieu, dans le salut, et c'est vrai. Mais cette foi, elle est vérifiée. Ce salut, il est authentifié par le fait que vous faites des bonnes actions. S'il n'y a pas de fruit de votre foi, c'était le dilemme dont parlait Jacques, au point que Luther, qui avait compris l'importance de la foi pour le salut, méprisait l'épître de Jacques. Il disait que c'était une épître de paille, pour dire que c'était quelque chose qui pouvait être brûlé en un instant, qui n'avait pas de valeur. Il n'avait pas bien compris, avec tout le respect qu'on doit à ce grand réformateur qui a été touché par le message du salut par la foi seulement. On est sauvé par la foi seulement, mais la foi seule ne sauve pas. Parce que la foi, elle va donner automatiquement, si elle est sincère et réelle et profonde et biblique, elle va nous porter, nous conduire à de bonnes œuvres. Alors les bonnes œuvres, c'est pas seulement venir aux réunions de prière, venir lire sa Bible tous les jours, cocher les bonnes œuvres, c'est tout ce qui fait du bien, qui porte le message d'amour autour de nous, ce message d'amour de Christ autour de nous. C'est aussi spirituel de faire du babysitting pour une maman fatiguée que de venir à une réunion de prière. Si c'est fait pour le Seigneur, si c'est fait dans le but de servir au nom de Jésus. Et toutes ces œuvres bonnes, on doit pas seulement en faire, on doit exceller. L'excellence. Ça, c'est un... Ça tombe bien, il est pas là ce matin, donc je peux parler de lui, mais j'ai eu un très beau témoignage du fils de Paul et Elisabeth, Michael, qui s'était porté volontaire. On repeignait l'entrée, la porte d'entrée de l'étage du côté de la rue de Magnan, le boulevard de Magnan. Et le responsable du syndicat m'avait demandé, du syndic plus exactement, m'avait demandé si parmi nos jeunes il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire le travail. Et j'avais demandé à Michael, qui avait dit pas de problème, je vais faire la peinture. Et donc Michael avait commencé à faire ce travail. Et il faisait ça avec le plus grand soin, la plus grande application. Il mettait du papier pour éviter que ça déborde, il avait mis du papier par terre, il avait tout nettoyé. C'était un travail impeccable, au point que un voisin, donc, qui est responsable du syndic dans l'immeuble, lui avait dit « Oh, tu sais, faut pas pinailler, hein, c'est pas bien grave si ça te bave un peu, c'est un coup de peinture. » Et Michael lui avait répondu « Tant qu'à faire, autant, quand on fait le travail, tant qu'à faire, autant le faire du mieux qu'on peut. » C'était l'esprit de faire, d'exceller dans ce qu'on fait. Et je vous invite tous, quoi que vous fassiez, le travail le plus ingrat, que ce soit de faire le ménage quelque part, d'enseigner les enfants, que ce soit un travail important ou un petit travail, appliquez-vous à le faire du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas pour votre patron, c'est pour le Seigneur Jésus. Dans tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur Jésus. Excellez, excellez, excellez. Qu'on ne dise pas « Ah oui, c'est des chrétiens, ils ont fait un travail. » Non, un témoignage positif qui sera apporté. En moi-même, quand Michael a répondu ça, j'ai dit « Yes !» Mais la personne a été vraiment touchée. Il a organisé une collecte parmi tous les habitants de l'immeuble. Et Michael a reçu sans doute plus d'argent que s'il avait été un ouvrier payé par la copropriété. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de briller dans l'obscurité. Vous employez quelqu'un maintenant, ils vont essayer de faire le travail rapidement, et je ne les condamne pas parce qu'il y a des charges, il y a des tas de choses, il faut faire le travail rapidement. Mais quand vous prenez le temps d'exceller, ça fait une différence. Et les gens le voient. Et donc, il nous dit d'être utile aux hommes. Et puis, il nous parle de quatre types de relations. Il a déjà parlé de ces différents groupes, mais d'abord, il parle des faux docteurs, des faux enseignements. Évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et il a parlé au premier chapitre des faux enseignants qui ne cherchent que leur propre intérêt, qui disent du mal. Au verset 12 du premier chapitre, l'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux ». Et il dit, ce témoignage est vrai. Et souvent, et je crois que j'ai peut-être été coupable de cette interprétation, on dit qu'en fait c'est vrai que les Crétois étaient comme ça. Mais j'ai entendu justement à la conférence un message par Greg Opin, un pasteur qui a planté beaucoup d'églises en Hongrie, qui disait qu'en fait, c'était un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Ces faux prophètes insultaient les personnes dont ils avaient la charge. Ils ne leur montraient pas de l'amour. Ils n'aimaient pas et ils étaient incapables de briller pour Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs propres œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Toujours cette idée que la vraie foi va se manifester par des vraies bonnes œuvres. Et ces gens, notamment, ils aimaient bien s'engager dans des folles discussions. Ils parlaient des généalogies, dans les disputes, les discordes, et tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est vain. Tout ça, ça fait du mal, et ça évite de faire briller l'évangile dans les ténèbres. Et ces gens, ces folles discussions, c'est des fois des pseudo-discussions théologiques. Comme de savoir, est-ce que Dieu peut faire un rocher si lourd qu'il n'est pas capable de le soulever? Enfin, c'est une question profonde. puisque Dieu peut tout, il doit vous faire un rocher qui ne peut plus. Ah ben, là, il y a un problème. Des bêtises pareilles. Et on peut se complaire dans ces choses-là. Les généalogies, ça ne veut pas dire que vous êtes libre maintenant de plus lire les généalogies de la Genèse, etc. Au contraire, mais ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on faisait des interprétations fantaisistes des généalogies, on faisait tout des... Et ça subsiste dans la foi juive, ce qu'on appelle la Haggadah, c'est souvent des passages qui sont repris, qui sont détournés de leur sens original en travaillant les noms des généalogies et en faisant des doctrines qui sortent de nulle part. Il dit pas de ça. La discorde, malheureusement, on sait ce que c'est de dire du mal d'un tel ou de dire qu'on n'est pas d'accord avec telle chose et de diviser. Et puis, les disputes relatives à la loi, là aussi, on peut chercher des éléments dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements, les enseignements de l'Ancien Testament. On peut chercher des points en contradiction, on peut se perdre dans la théologie, et tout ça, c'est en vain. Et je suis en train de lire une biographie du grand pasteur allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, Bonhoeffer, par un dénommé Eric Metaxas. Et il dit que ce grand pasteur qui a souffert pour sa foi, qui a été mis à mort par le régime nazi, en fait, il n'était pas intéressé dans les abstractions intellectuelles. Et que pour lui, la théologie devait déboucher sur des choses pratiques dans la vie d'un chrétien. J'ai un beau-frère qui a marqué, qui a une petite citation qu'il aime partager. Il dit « Il est dangereux pour le chrétien de voir le monde de son bureau. » On peut rester assis dans sa tour d'ivoire, lire des livres, des commentaires et ne pas être en prise avec la vraie vie. Et quand on se livre à toutes ces disputes, on n'est pas à aider la veuve et l'orphelin, on n'est pas à mettre l'évangile en pratique. Et tout ça, c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est vain. Le mot d'ordre, c'est « évite ». Évitez. Quand on commence à vous poser des problèmes bizarres ou des points de doctrine qui ne sont pas clairs, on interprète avec assurance des choses qui sont pas claires dans la parole. Évitez ce genre de choses. Évitez ces personnes. Évitez les faux enseignants. Vous les reconnaîtrez facilement si vous connaissez la parole. Si vous êtes comme les habitants de Béret, que vous pratiquez la parole, dès qu'on racontera des sornettes, vous direz, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, il y avait aussi les personnes qui cherchent à diviser. Il y a des personnes qui ne cherchent pas l'unité du corps de Christ, ou qui disent la rechercher mais qui s'en séparent. Et ces personnes qui veulent diviser, il faut s'en éloigner. Il faut même, le mot c'est traduit ailleurs par repousser. Vous voulez pas partager votre vie avec eux. Éloigne de toi après un second avertissement, celui qui cause des divisions. C'est le mot qui nous a donné le mot hérétique. Toujours la procédure d'aller voir, comme dans Matthieu 18, d'aller voir son frère s'il y a un problème, de le revoir avec un autre, et puis avant de le repousser complètement. Toujours cette grâce, et aussi cette procédure à suivre. Éloignez-vous de des gens qui cherchent des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pèche et se condamne lui-même. perverti, tordu, comme s'il avait la scoliose ou la lordose. Quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, dans le sens où il penche à droite, à gauche, il ne sait pas où il va. Et c'est un péché. C'est un péché que de chercher à diviser le corps de Christ. Et il se condamne lui-même. Il est auto-condamnant lui-même en grec. Éloignez-vous de cela. C'est valable aujourd'hui. Et puis, il passe à des gens plus agréables. Il parle d'Artémas, dont on ne sait rien d'autre que ce qui est dit ici, verset 12, je t'enverrai Artémas, ou Tychique. Tychique, on en parle dans d'autres passages, dans le livre des Actes. C'était dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 4. Il était avec Paul dans son premier emprisonnement à Rome. C'est lui qui avait envoyé les épîtres de Paul aux Éphésiens. On voit ça dans Éphésiens 6, 21. Aux Colossiens, Colossiens 4, verset 7. Et à Philémon, Colossiens 4, 7, 9. Et aussi Philémon 10. Tite devait retrouver Paul à Nicopolis, la ville de la victoire, comme Nicéa, comme Nice. Il y avait, apparaît-il, une dizaine de villes en Asie mineure et en Palestine qui s'appelaient Nicopolis, les villes de victoire. Quand il y avait une victoire, c'était célébré et on donnait le nom de la victoire. Nice est nommée après la déesse de la victoire des Grecs. Et là, lui aussi, il avait décidé, il fait trop froid à Paris, je viens à Nicopolis passer l'hiver. Et là, le mot important, c'est le verset 13, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Apollos aussi, on le connaissait. Zénas, c'était un avocat chrétien. C'est le seul avocat chrétien dont il soit fait mention dans la Bible. Donc c'est possible. On dit souvent que les avocats ont mauvaise réputation, mais là c'était un frère qui, on ne sait pas s'il était spécialiste en droit romain ou en droit juif, mais peu importe, il était un cher compagnon de l'apôtre Paul. Et donc il parle des frères dans le ministère. Et cela, le mot d'ordre, dans cette relation avec ceux qui travaillent dans le ministère, c'est de les aider. C'est de pourvoir aux besoins de sorte que rien ne leur manque. Et nous avons été vraiment bénis aux États-Unis, notamment par les parents de l'INSEE, certains d'entre vous ont déjà rencontré il y a un an et qui vont normalement repasser à Nice en fin d'année. Rien ne nous a manqué. Tout était. Sa maman en particulier, son papa aussi, avait pensé à tout. Accueil à l'aéroport avec des bouteilles d'eau et des snacks, de l'eau, parce que dans les avions, on est toujours desséché par le système d'aération, de ventilation. Et une abondance. Cette abondance, elle vient du fait qu'on se met à la place de l'autre et on pense à ses besoins. C'est la même chose. Il nous dit, ayez soin de pourvoir à tous les besoins de tous. Ça demande de communiquer avec eux, de savoir où ils en sont, de savoir leurs problèmes. Et de faire selon sa mesure, on ne peut pas régler tous les problèmes, on n'est pas Dieu, mais on peut encourager, on peut donner de notre temps, de notre énergie, de nos ressources. Il faut subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fuite. Ça c'est pour les proches amis, à partir du verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes. Toujours ce désir d'excellence. Pas faire les choses à moitié. Faire du mieux qu'on peut. Et quand on s'efforce ainsi de faire du mieux qu'on peut, on pense moins à nos problèmes. On cherche à résoudre ceux des autres. On a une attitude positive. On se sent bien. On s'oublie. Si on est tout seul à dire « Oh, qu'est-ce que je suis fatigué aujourd'hui. Oh, j'ai ce mal de tête. » Mais si on est prêt à aider l'autre, on oublie tout. En notre absence, Tonio et Sébastien nous ont fait la surprise de détruire notre salle de bain. C'était une grande surprise. Et la salle de bain n'est toujours pas en état de fonctionnement, mais on apprend à vivre. Mais j'étais vraiment béni par leur attitude de faire tout ce qu'ils ont pu avec Lindsay, avec l'aide de Lindsay, pour nous bénir. Et par la foi, on sait qu'on va être béni. Qu'un jour, on va pouvoir reprendre des douches chaudes. Mais c'est subvenir aux nécessités urgentes, ne pas être sans fruits, c'est le mot d'ordre, c'est l'amour. D'être touché, de bénir l'autre. Et ça, c'est Paul envoie cette lettre et il nous dit voilà ce qu'il faut faire. La vie est compliquée, les églises, c'est pas facile. Il y a des gens qui viennent avec des motivations bizarres, il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qui se retournent contre vous, il y a des... Continuez. Éloignez ceux qui... Évitez les histoires qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent à rien, qui ne profitent pas, qui ne sont pas belles et utiles aux hommes. Éloignez-vous de ceux qui cherchent la division. Dites-leur d'aller ailleurs si ça continue, si après les avoir avertis. Et puis, dans ceux qui sont avec vous, ceux qui travaillent dans le ministère, ayez soin de pourvoir à tous leurs besoins. Et puis, dans tous les cas, et pour les proches et les moins proches, montrez un amour infini. Pas parce que vous pouvez le donner, mais parce que vous le recevez et vous le donnez aux autres. Et ça touche le monde. Et beaucoup de personnes viennent ici et disent « On revient parce qu'on sent un amour qu'on n'a pas senti ailleurs. » Puis d'autres disent « Non, on n'a pas senti l'amour, on s'est disputé. » Mais peu importe, l'ennemi veut détruire, veut diviser de l'intérieur, il veut opprimer, il veut, comme en Iran, il veut attaquer, il veut persécuter. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de tes ordres de marche, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous contenter de connaître ta parole, mais à la mettre en pratique, Seigneur. Que notre foi la foi qui nous a sauvés, Seigneur, elle se manifeste aussi comme réelle par des œuvres qui t'honorent et qui font du bien aux autres, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que nos vies soient belles et utiles aux hommes. Aide-nous à suivre tes préceptes, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour discerner les choses, pour être à même de juger. Et surtout, Seigneur, aide-nous à ne mire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes, sachant que nous ne valions pas mieux que ceux que nous attaquons souvent, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni. Quel Dieu merveilleux nous servons. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Aide-nous, Seigneur, à être tes disciples. Amen.